Je vais vous amener dans le monde donc, des supporters. Mais aujourd'hui, pas exclusivement du Paris Saint-Germain, puisqu'on verra dans ma méthode que je prends différents contextes aussi. Donc là, on voit deux photos. La première photo, elle est prise à Francfort. Et donc, c'est pour montrer finalement qu'il n'y a pas seulement que le lieu du stade, il y a aussi un avant, un après. On va au stade. Et donc, il n'y a pas que le match, il y a aussi toute une série de pratiques qui ont lieu donc, bien en amont du match et bien après, avec des lieux qui sont fréquentés finalement autour des stades. Et donc là, on pourrait se projeter, comme ça à Francfort, on pourrait se projeter sensoriellement en imaginant très bien qu'on a des odeurs de saucisses de Francfort, par exemple. Donc, voilà. Et donc, finalement, on voit que finalement, l'événement sportif, comme dit Dominique Boulier, qui a fait un livre sur l'événement sportif, le sport, déborde sur la ville et vice-versa. Finalement, une partie de la ville va au stade et l'événement sportif déborde aussi sur la ville. Et donc, on peut imaginer donc, ces lieux de bien-être, une topophilia, comme dit le géographe Toine, avec toute une série de sens, d'odeurs. On voit ici la sociabilité aussi. On va au stade en famille, on voit un enfant avec ses parents. Et puis ensuite, la deuxième photo, bon, elle est plus évocatrice. On va dire que c'est un lieu festif. Le stade est un lieu festif. Donc finalement, on voit deux symboles de la fête, l'alcool, et ensuite on voit aussi les fumigènes, donc les fumigènes que les supporters utilisent. Alors moi je vais parler exclusivement des supporters ultra, donc ultra, pour vous donner une petite définition, on va dire que c'est les supporters qui sont situés dans les virages des stades, donc où il y a des tarifications beaucoup plus avantageuses par rapport aux tribunes latérales où les billets sont finalement plus chers. Et donc, ce sont eux qui animent le stade par une série de chorégraphies, mais aussi des chants, un répertoire visuel et donc sonore. Donc, pour rebondir sur l'aspect festif, donc la fête, je vais citer Guy Dimeo, qui a fait un livre « Géographie en fête » sorti en 1998, si je ne m'abuse. Donc la fête participe à son tour à la détermination et à la régulation des rapports sociaux. Dans ce cadre, ce qui caractérise sans doute le plus l'espace-temps de la fête, c'est sa délimitation parfaite, sa séparation radicale avec l'espace-temps ordinaire, banal et routinier. Donc on est dans l'extraordinaire. Ensuite, je compléterai encore avec Guy Dimeo, qui dit que « rites et cérémonies soulignent l'emprise des groupes locaux sur l'espace de la fête ». Ces manifestations ne se contentent pas de le signifier et de le qualifier. Elles en tirent en retour quelques-unes de leurs propriétés majeures, procurer de la joie, de l'émotion, de la fierté, de l'émerveillement, un sentiment de solidarité ou d'identité, parfois un peu de crainte, de frisson. Ce sont les disparités topographiques des lieux, les effets de surprise et de perspective que leur configuration réserve, leurs cadres architecturaux ou paysagers qui s'intériorisent dans les représentations sociales. Ils imprègnent l'affect et les sens des participants de la fête. Donc je vais essayer de voir comment on peut saisir cet affect. Et donc finalement, on voit que les supporters ultra sont des supporters qui s'approprient des territoires qui cimentent leur identité collective, mais aussi individuelle. Donc on va passer d'un régime de place à un régime aussi de territoire. Donc... pour la méthodologie, alors il s'agit d'une approche micro-géographique. Alors c'est la micro-géographie, c'est souvent évoqué dans certains travaux, mais c'est finalement très peu défini. Et donc je ne suis pas le seul à travailler sur ce sujet, mais avec mon directeur de recherche André-Frédéric Oyo, aussi Arthur Oldra, doctorant aussi à Passage. Le but de cette approche, c'est de se rapprocher au plus près des réalités que vivent les acteurs au sein de petits espaces et une prise en compte des acteurs par le bas, donc traduire leur représentation, leur signification. Donc une prise en compte par le bas, mais là j'ai pris exclusivement les supporters, j'aurais pu prendre aussi les agents des forces de l'ordre, mais je n'ai pas fait ce choix tout simplement, parce que il y a déjà des travaux qui existent plus dans un versant institutionnel sur la police, et finalement il y a peu de travaux qui parlent vraiment des significations des supporters en géographie, il y en a en sociologie, il y en a en anthropologie, donc en géographie... J'ai voulu traiter aussi de ce sujet-là. Et donc je dis bien « je » parce que en fait, ce sujet, enfin, cet objet d'étude est parti aussi de ma participation, donc de ma position d'usager du stade et de supporter, d'une posture particulière. Et donc aussi l'enjeu de la microgéographie, on va voir, c'est que de voir que ces petits espaces, finalement, ils abritent des problématiques qui sont valables aussi pour d'autres contextes, d'autres stades, mais aussi d'autres ensembles spatiaux, d'autres espaces. Donc c'est ce que je vais essayer de montrer tout le long. Et ensuite, cette position d'insider, comme dirait Howard Baker de l'école de Chicago, elle m'a permis d'accéder à ces représentations plus facilement auprès de ses supporters, puisque finalement, ils parlent peu, puisqu'ils ont peur des journalistes, de la police, et donc le fait d'appartenir au groupe a été plus facile pour ma part, pour avoir accès à des significations qui sont difficiles normalement d'accès. Donc l'enjeu, c'est aussi de se mettre à distance, mais bon, la mise à distance, je l'ai fait en variant les types d'observations en fait, que je fais en situation, et en prenant en compte différents contextes. Donc je prends en compte le contexte parisien, mais aussi le contexte à Stockholm. Je suis les supporters de l'AIK à Stockholm, mais aussi à Catane en Italie, et divers autres matchs, divers et variés. Voilà. Et donc, la mise à distance aussi, elle se fait intellectuellement, ça va de soi. Je ne suis pas la semaine comme je suis au stade, sinon je ne serais pas ici en fait. Et d'ailleurs, réfléchir toute la semaine me pousse à aller au stade ensuite pour décompresser. Donc voilà. Donc en fait, l'enjeu est de développer une géographie sans complexe, en fait, sur ces questions de la subjectivité, puisque est-ce que les travaux qui se disent neutres le sont tant que ça, finalement? Donc j'essaie aussi de prendre un regard réflexif sur ces situations. Et donc mon inspiration, elle est, je parle de recours aux microsociologies et de leurs outils pour mettre en place cette approche microgéographique. Inspiration de l'école de Chicago, donc d'Howard Baker, pour son observation participante sur Goffman, sur comment il décrit les situations. Il décrit aussi une certaine vie quotidienne. Les supporters ultra ne sont pas ultra seulement le week-end, ils sont ultra la semaine. Ils ont un mode de sociabilité qui les rapproche. C'est une vie de groupe dans des locaux. Ils ont des locaux à leur disposition. Ils territorialisent aussi des bars durant la semaine, des places, des parkings, enfin, divers lieux. Donc l'ethnométhodologie aussi, pour l'observation, et aussi la volonté de ne pas émettre de jugement de valeur auprès des supporters, enfin sur les supporters, sur leurs actes. J'essaie de ne pas être un juge, je me cantonne à décrire, à analyser les situations. Et donc ça passe par un corpus empirique basé sur un carnet de terrain, donc cinquantaine de matchs en 2 ans. À peu près, là, depuis septembre 2016, en fait, depuis que j'ai le contrat doctoral. Et en entretien, j'ai peu d'entretiens. J'ai 7 entretiens, mais ils ne sont pas faits dans le contexte parisien, puisque finalement, ce sont des amis, en général, avec qui je m'entretiens, et ils ne veulent pas beaucoup me parler, en fait. Ou alors, ils croient que je sais tout, donc du coup, ils ne se dévoilent pas. Du coup, je développe un peu une méthodologie très informelle, basée sur un recueil de données assez bancal. On essaie de bricoler. Je ne viens pas avec un carnet pour noter, puisque tout simplement, ça fait très journaliste, donc dans la perception qu'ils en ont. Du coup, avec le portable, je prends des photos de certains lieux mémotechniques, Voilà, ça me permet après de mettre en réflexivité tout ça, ou alors de faire semblant d'écrire un message, voilà, un SMS. J'ai noté une conversation, puis je fais semblant d'écrire un message, et puis du coup, ça me permet un peu de me cacher, et vraiment d'accéder aux significations, et qu'il n'y ait pas trop de trucage, en fait. Puisque s'ils se sentent observés, ils n'agissent pas de la même manière. Donc, les hypothèses de recherche, c'est de voir que finalement le stade est un catalyseur d'émotions attractif pour les supporters. Donc, tout d'abord, le premier point, l'aspect émotionnel. Ensuite, en répétant les pratiques et en devenant une habitude, le stade et ses tribunes deviennent des territoires symboliques pour certains supporters qui s'y attachent. Donc, on va voir qu'il y a un attachement qui se forme, un attachement qui se fait sur un temps long. Je citerai Nathalie Audas, notamment, qui a fait un travail sur la notion aussi d'attachement dans son livre « La ville et le sablier du temps ». Et en trois, donc, voir que la perte d'un lieu avec l'aménagement avec les nouveaux stades, donc finalement il y a des déterritorialisations, la perte de nouveaux lieux met en visibilité cet attachement encore plus. Il le met en visibilité vraiment. Avant, quand ils sont dans leur stade, ils ne parlent pas spécialement d'attache au territoire, mais quand ils perdent leur stade, on se rend compte qu'il y avait une véritable attache. Et donc, le quatrième point, ça sera de montrer un problème social, qu'il existe aujourd'hui un problème social à les supporters, cette catégorie de supporters qui sont les ultras, donc un rapport institution-supporters et des rapports de pouvoir très forts, en fait. Et donc, je vais essayer de montrer cela à partir de trajectoires individuelles de supporters, avec des entretiens biographiques, pour citer Demazière, par exemple, et donc pour montrer une des réalités du contexte, des contextes que je vais essayer de montrer. Donc, voilà. Donc, le stade comme catalyseur d'émotion, je vais citer Vincent, supporter de Saint-Étienne. On a des Stéphanois dans la salle. Ce qui m'a attiré, c'est l'ambiance principalement et ce côté très convivial que peut offrir le football. Où tu te retrouves au stade, tu retrouves des amis et tu rencontres des nouvelles personnes, tu chantes. Des fois, tu es en colère, des fois, tu es heureux. J'irai même plus loin en disant que pour moi, le stade est un exutoire émotionnel où tu peux passer par différentes émotions et te permettre surtout que le week-end de te détendre et d'oublier la semaine de travail que tu viens de passer, qui a été plus ou moins bonne. Donc je vais pas tout lire, mais ça montre un peu ce côté soupape de décompression sociale qui est très important et qui est souvent qu'on retrouve pas mal sur d'autres entretiens. Donc, il y a aussi, donc ce lieu qui est un exutoire émotionnel et déroutinisant. Mais finalement, la notion de routine, on va parler plutôt d'habitude pour le stade, puisque finalement, l'attachement se fait en s'habituant à pratiquer le lieu. Donc, ce n'est pas une routine, on va parler vraiment d'habitude. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc Stéphane, supporter du PSG, pour lui, c'est notre territoire, c'est clair et net. Si tu parles de l'espace dans ce sens-là, c'est notre territoire. Boulogne, Paris, c'est la maison, quoi. Il y a ce côté habité aussi, seconde maison. Donc le stade est un lieu habitable au sens de Marc Perelman, par l'investissement émotif des supporters, mais de manière éphémère et qui se répète ensuite dans le temps. Donc les relations à l'espace, c'est ça, quoi. Au point où tu te retrouves toujours au même endroit, dans la tribune, et que cet endroit, il était quasi réservé, même si tu arrives à 10 secondes du match, supposé du coup d'envoi. Et Vincent, lui, supporter de Saint-Étienne, mon rapport à l'espace est qu'inconsciemment, à chaque fois que je vais en COP Sud, tribune du stade Geoffroy Guichard, je me place quasiment à chaque fois au même endroit, à 2-3 rangées près, quasiment le même bloc à chaque fois. Je me rends à chaque fois à ce même endroit, et pas forcément par choix, mais c'est quelque chose qui s'est imposé de lui-même, et que voilà, j'ai toujours aimé prendre le même escalier à tel endroit, à tel moment, et me poser à telle place à chaque fois. C'est un rituel hebdomadaire complètement. Donc là, pour reciter Guy Dimeo, les routines s'installent aussi dans la pratique physique des lieux. L'habitude d'emprunter tel itinéraire, de parcourir telle rue ou tel chemin, imprime chez tout individu des schémas mentaux spécifiques de rapport à l'espace. Ils associent des stimulations purement sensorielles à des impressions et à des images d'ordre affectif, esthétique ou culturel. Les stimuli sensoriels que provoquent les dispositifs spatiaux dressés sur le chemin du passant déclenchent des comportements quasi automatiques, irréfléchis, emprunter une voie, tourner à gauche dans une autre, puis traverser la place pour se rendre à tel endroit. L'affect de la culture, la mémoire incite le promeneur au repérage furtif et très sélectif des lieux et des formes sur son parcours. Donc là, c'était pour la notion d'attachement, justement, de montrer que le stade est une seconde maison pour ses supporters. Donc, un attachement qui se matérialise d'autant plus quand les supporters sont déterritorialisés, donc quand il y a un nouveau stade et qu'il faut quitter l'ancien stade. Donc Martin, supporter de l'AEK Stockholm, au sujet du stade Rasunda qui a été détruit en 2013 pour faire place au nouveau stade plus moderne de la Friends Arena. Donc il dit « On a un nouveau stade maintenant et dès qu'on a changé de stade, j'ai dû changer le trajet un peu aussi. Je me souviens que quand on avait l'autre stade, ça me donnait plus, comment dire, ça me donnait plus d'émotion. Maintenant, ça va, je suis content d'aller voir mes amis et tout, mais le stade ne me provoque pas beaucoup d'émotions. C'est les amis qui provoquent plus d'émotions, en fait, que le lieu du stade en soi. Donc, je le questionne, tu n'as plus le même rapport à l'espace entre le nouveau stade et l'ancien stade ? Mais parce que l'ancien stade, c'est un peu là où j'avais grandi. C'est vraiment où je suis devenu un peu qui je suis maintenant. Le nouveau stade, enfin, on a dû déménager tout ce que j'avais dans le nouveau stade et on va faire la même chose que l'on faisait dans l'ancien stade. Et je lui dis, si je te montrais une photo de là où il y avait l'ancien stade, maintenant c'est un parking, qu'est-ce que ça évoquerait pour toi ? C'est vraiment quelque chose où je me sens triste quand je vois ça. En fait, l'ancien stade, c'était à la sortie de métro à Solna, un quartier de Stockholm. Donc à chaque fois que j'arrivais, je sortais comme ça et je voyais le stade. Maintenant, je fais le même trajet et je ne vois plus le stade. Et ça me rend vraiment triste. Ça me rend triste. Surtout parce que j'ai vécu énormément de choses là-bas. Des bons moments, des mauvais moments, mais des moments entre potes. C'est un peu comme si ça n'existe plus. La seule chose qui existe, c'est dans ma mémoire. C'est vraiment comme si quelqu'un m'avait volé quelque chose. C'est vraiment un des espaces le plus important pour moi et ça n'existe plus du tout. Donc là, il y a ce côté nostalgique, mais aussi la mémoire. Et il y a aussi la notion de déchirement qui est assez forte. Ok. Donc les déterritorialisations et leurs enjeux, l'architecture, la fonctionnalité, la gentrification, le cas d'un nouveau stade. Donc Martin, il dit « Le nouveau stade, c'est pas vraiment un stade de foot ». Je ne vais pas lire tout. Alors, en gros, cette citation, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre que les nouveaux stades, ce passage de l'entretien, il montre finalement six problématiques liées au nouveau stade. D'une part, sa multifonctionnalité. Ce n'est plus des stades de foot. C'est des stades où il y a des concerts. C'est des stades où il y a d'autres activités. Et donc, il n'y a plus ce côté stade uniquement de foot, comme on peut voir en Angleterre, où finalement, on est très près du terrain. Et ça change la perception aussi du spectacle sportif. Ils sont trop grands pour l'usage. Finalement, ils ne le remplissent pas parce qu'ils sont trop grands. Ils font 60 000 places, 50 000 places et ils n'ont que 15 000 abonnés. Donc finalement, ça donne cette impression de vide et qui procure finalement peu d'émotions. C'est même assez dramatique finalement. Donc il y a cet aspect aussi aseptisé, neutre au niveau des matériaux. On peut être dans un stade à Stockholm, un nouveau stade à Stockholm, et on peut être dans un nouveau stade en Allemagne, on a l'impression d'être au même endroit, finalement. Donc au niveau de l'identité du lieu. La gentrification, le public a changé, du coup, c'est un public beaucoup plus consommateur, parce qu'il y a le prix des places a augmenté aussi, par la même occasion. Et aussi, il y a des commerces mis à disposition qui ont évolué par rapport aux anciens stades. Et ensuite, pour rebondir après sur ce dont on a parlé hier, c'est aussi le numérique, l'aspect très technologique de ces nouveaux stades, alors que ces supporters, ils rejettent plutôt la technologie, ils sont vraiment dans l'émotion, et ils voient cette réalité augmentée comme d'un mauvais œil. Donc pour ça, je citerai Smart Stadium, un livre de Marc Perelman, dont il traite de cette problématique du Smart Stadium. Et donc ensuite, il y a l'aspect aussi, il n'y a pas que architectural, il y a aussi l'aspect sécuritaire. Donc là, c'est une photo, prise à Saint-Étienne en 2016. Et en fait, il y a une solidarité entre les ultras de Saint-Étienne et parisiens pour montrer, en fait, il y a une première banderole, 2 minutes pour montrer aux Qataris ce qu'ils ont fait à Paris. Donc, ils s'assoient. Parce qu'en fait, à Paris, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des drames avec les supporters. Donc là, on est sur... On peut parler du lieu et de l'événement. Il y a eu un événement spatial qui a marqué le lieu, puisque finalement, il y a eu des rixes entre supporters du PSG de deux virages opposés. Ok, d'accord. Et donc finalement, il y a l'aspect sécuritaire. Donc là, on les voit tous assis pour en fait mimer comment est le Parc des Princes, en fait, un stade qui est maintenant, qui était dans le contexte de 2016, qui était mort, où il n'y avait plus d'émotion, où les supporters étaient assis avec un placement coercitif. Et ensuite, il pose, après ces deux minutes assises, il pose une nouvelle banderole, le temps d'un match pour leur montrer que notre passion est plus forte que votre répression. Et là, ils se lèvent, ils se mettent à chanter et le spectacle peut commencer, le spectacle des tribunes, bien entendu. Donc, pour conclure, la conclusion, donc, ce qu'on a vu, c'est que la prise en compte par le bas des acteurs et de leur représentation dans différents contextes permet de dévoiler des problématiques universelles concernant les supporters de football, au niveau de leur affect envers le lieu du stade, mais aussi universalisable à d'autres contextes. Je veux dire, qu'on soit à Paris ou à Stockholm, finalement, il y a un peu les mêmes problématiques. Des supporters qui sont en tension avec les autres acteurs du monde du football est souvent peu entendu. Il y a un gros manque de dialogue entre institutions et supporters. Et aussi, ça montre aussi l'évolution du monde du football qui semble menacer la place de ses supporters en privilégiant des supporters plus consommateurs et plus dociles. Le modèle asseyez-vous, payez, asseyez-vous et taisez-vous. Voilà. Et ensuite, donc, en montrant le rapport affectif envers le lieu du stade, en montrant que ce rapport peut être chamboulé, peut-on étendre cette problématique d'aseptisation, de sécurisation des stades à la société, à d'autres espaces publics ? Je vous remercie.
Nous te remercions, Gaël. Merci.